Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et c'est Alexandre de Saint-Aignan qui m'accompagne pour toute l'actualité de ce vendredi 14 mai. Bonsoir Alexandre.
Et bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, une petite fille de 5 ans gravement brûlée par un produit chimique dans son école maternelle.
La chaise sur laquelle elle s'est assise avait reçu des gouttes d'un désinfectant particulièrement corrosif. La fillette a dû subir une greffe de peau. 20 millions de Français vaccinés à la mi-mai. L'objectif sera atteint demain, comme prévu, affirme le ministre de la Santé. La tension toujours très vive au Proche-Orient. En ce jour de prière pour les musulmans, la colère gagne les pays voisins d'Israël. L'Empire du Milieu à la conquête de la planète rouge. Et puis un nouveau maillot du PSG, beaucoup trop bleu au goût des supporters.
À la fin du journal, la météo complète avec Claire Delorme, bien sûr, demain, du gris et de la pluie. Et puis on va défaire le monde à partir de 19h15.
RTL Soir.
Qui aurait pu imaginer que s'asseoir sur une chaise aurait des conséquences aussi graves? À Rueil-Malmaison, une fillette de 5 ans a été gravement brûlée au niveau des fesses. Des travaux venaient d'avoir lieu dans son école maternelle et quelques gouttes d'un produit désinfectant extrêmement corrosif se sont retrouvées sur une chaise, Nicolas Burnand.
Oui, le 29 avril dernier, le jour de la rentrée, cette fillette mouille ses habits à la cantine. Un animateur l'emmène dans une salle du centre de loisirs pour se changer. C'est là que se déroule l'accident, explique Perrine Legrand, la présidente de l'association des parents d'élèves de Rueil-Malmaison.
Il semblerait que cette petite fille se soit renversée de l'eau. Elle a été changée dans un local. Elle s'est assise sur une chaise. Et suite à cela, une fois qu'elle est rentrée chez elle, le soir, elle avait des brûlures sur ses fesses.
Les blessures sont graves, l'enfant est hospitalisé et doit subir une greffe de la peau. Selon les premières constatations, dans ce local, des agents de nettoyage ont dilué un produit hautement corrosif dans de l'eau. Quelques gouttes sont alors tombées sur la chaise avant de sécher.
La brûlure est due à un produit chimique, serait un désinfectant. Il a été sorti sous forme diluée, utilisé pour désinfecter l'école pendant la crise sanitaire. Comment un produit aussi dangereux, même sous forme concentrée, peut se retrouver au sein d'une école? Parce qu'un principe de précaution en termes de sécurité, c'est de substituer tout produit dangereux par un produit moins dangereux.
Contacté par RTL, le directeur général des services de la ville explique que ce produit n'aurait jamais dû se retrouver dans ce local et que les protocoles n'ont pas été respectés. Une enquête administrative a été ouverte.
Nicolas Burnand pour RTL.
Après le féminicide de Mérignac, le ministre de la Justice s'en visite aujourd'hui dans une plateforme d'assistance aux victimes de violences conjugales.
Il y a 10 jours, une mère de famille a été brûlée vive par son ex-mari violent et récidiviste près de Bordeaux. Quelques semaines plus tôt, elle avait pourtant porté plainte contre lui. Une série de défaillances pointées dans une mission d'inspection lancée par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. À Mérignac, la victime n'a pas été protégée. Il existe pourtant plusieurs dispositifs, que ce soit le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. Cet après-midi, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pu constater leur efficacité, Valentin Boisset.
Sur un écran du centre, les agents constatent un homme s'approche trop près de son ancienne victime. Il est ensuite géolocalisé.
On a toutes les informations, au moins de 10 secondes. La géolocalisation, numéro de téléphone et tout ce qui va aller.
Mais il est surtout contacté par les agents de ce centre car il pourrait constituer une menace pour sa victime.
Monsieur, vous êtes dans une zone qui est interdite. Vous quittez immédiatement ou j'appelle les forces de l'ordre. Là, vous sortez de la zone immédiatement. Je surveille, merci beaucoup.
Cet agent reçoit ici en moyenne une vingtaine d'alertes par jour.
J'ai vu que vous étiez bien ferme, vous avez bien fait.
Ouais, 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 faut, c'est notre devoir. On est obligé de procéder ainsi. D'ailleurs, ça a marché parce qu'il a fait demi-tour.
Ben voilà, ben c'est top, formidable.
Le nombre d'alertes est aussi évocateur d'une année sur l'autre car avec le déploiement progressif du dispositif, chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses, selon le chef du service.
En 2019, 18 000 alarmes. Oui. 2020, 28 000 alarmes. D'accord. Près de 10% qui ont nécessité la sollicitation des forces de l'ordre.
Par la même occasion, le ministre de la Justice a appelé les juges à ne jamais hésiter de déployer ce dispositif lorsque la situation l'exige.
Le reportage de Valentin Boisset pour RTL.
Demain, Alexandre, nous serons le 15 mai et 20 millions de Français auront reçu au moins une première dose de vaccin.
L'objectif fixé par le gouvernement sera atteint, c'est le ministre de la Santé qui l'affirme sur Twitter. Encore près de 600 000 vaccinations ont eu lieu aujourd'hui. Les injections se poursuivent pendant le week-end de l'Ascension. 3 000 doses supplémentaires du vaccin Johnson ont par exemple été livrées dans les pharmacies bretonnes. L'avantage de ce vaccin, c'est qu'il ne nécessite qu'une seule injection. Problème, il est réservé aux plus de 55 ans. À Vannes, une pharmacienne a trouvé aujourd'hui seulement 5 candidats.
Nous nous sommes portés volontaires. On a actuellement dans notre réfrigérateur 300 doses d'AstraZeneca, 150 doses de Janssen et nous ne trouvons pas de patients éligibles pour se faire vacciner. Impossible de trouver des patients de plus de 55 ans qui veulent bien se faire vacciner par ces deux vaccins. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas être vaccinés par ces marques, du fait de la mauvaise communication médiatique, à mon avis. Hein. C'est hallucinant. On ne sait plus comment exercer notre métier. Je vous avoue que les bras nous en tombent après tout ce déploiement d'énergie pour ça. Quoi.
Que vont devenir les doses?
Je vais essayer de les délivrer aux médecins qu'on approvisionne habituellement aussi, mais je ne sais pas ce qu'il va en être vraiment. Hein.
Il n'est pas question de les jeter.
Ah, pour moi, non. Pour moi, non.
Des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. Les pharmaciens devraient bientôt pouvoir vacciner avec le Moderna, hein, cet équivalent au vaccin Pfizer-BioNTech, sans doute à compter du 24 mai prochain.
12 millions de Français profitent du pont de l'Ascension pour s'aérer, pour s'offrir quelques jours de pause, et parmi eux, 120 familles défavorisées.
Grâce au secours populaire, elles sont invitées dans plusieurs villages vacances à travers la France, notamment à Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime. Esteban Pinel.
En voilà un accueil animalier qui sent bon les vacances.
Il y a eu un cochon, il était tout là-bas, des poules.
Et alors tu trouves que c'est comment?
Bah bien.
Julie, la maman de cette fillette originaire d'Evreux, pas très loin d'ici, vient de garer l'auto. Enfin, la décompression après plusieurs mois assez tortueux.
Je travaille en restauration. Pendant 6 mois, j'ai fait un petit peu d'intérim, un petit peu beaucoup même. Je me suis débrouillée et là, je recommence donc le 19 avec l'ouverture des terrasses au niveau national.
Ces vacances du secours populaire sont précieuses car la crise met des bâtons dans les roues de cette maman au petit salaire.
C'est surtout qu'on ne peut pas prévoir, donc on ne peut pas bénéficier des promotions et se dire bah tiens, on saute dessus parce que on n'est pas sûr de se faire rembourser. On a moins le droit à l'erreur, donc j'anticipe rien du tout et je ne réserve rien du tout.
Le droit aux vacances, encore plus salutaire pour Catherine Luffroy, responsable du secours populaire en Normandie.
Ce sont des gens qui vivent en HLM, donc de sortir, de pouvoir prendre les vélos, aller en randonnée, tout ça, c'est des moments de bonheur que les familles prennent et que l'on aime.
Vélo, château, rando, leur week-end ne fait que commencer à Forges-les-Eaux.
Voilà le reportage d'Esteban Pinel en Normandie pour RTL.
Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant dans RTL Soir pour la suite du journal avec des manifestations violentes dans les régions voisines d'Israël. On va vous expliquer que la colère enflamme désormais le Proche-Orient. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Alexandre de Saint-Aignan à 19h08. Les affrontements ont fait désormais plus d'une centaine de morts entre Israël et le Hamas. Et Emmanuel Macron souligne aujourd'hui l'urgence d'un retour à la paix.
Le chef de l'État s'est entretenu tout à l'heure au téléphone avec le Premier ministre israélien, évoquant d'un côté le droit à se défendre face à la pluie de roquettes palestiniennes. Emmanuel Macron lui a également dit sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
Chef du service étranger de RTL, la colère gagne désormais les régions voisines.
Oui, les affrontements ont gagné la Cisjordanie. 10 Palestiniens ont été tués, plus de 150 manifestants blessés dans des heurts avec l'armée israélienne qui occupe cette région. Dans le même temps, Tsahal a amassé des chars tout le long de la frontière avec Gaza, l'enclave palestinienne densément peuplée. Les Israéliens visent notamment les réseaux de tunnels, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont poursuivis toute la journée. De nombreux habitants ont dû fuir leurs maisons. On compte désormais plus de 122 morts et des centaines de blessés côté palestiniens et 9 morts côté israélien, ainsi que de nombreux blessés. C'est donc sur 3 fronts qu'ont lieu les affrontements dans les villes israéliennes mixtes, à Gaza et en Cisjordanie. Mais il y a eu aussi des accrochages à la frontière libanaise et des milliers de Jordaniens ont manifesté leur solidarité avec les Palestiniens. Cela laisse craindre une montée des tensions alors que c'est demain la journée de la Nakba, celle où les Palestiniens commémorent leur exil à la création de l'État israélien.
Les explications signées Christophe Decroix pour RTL. En France, une manifestation parisienne était prévue demain en soutien à la Palestine. La préfecture de police a réclamé son interdiction. Décision confirmée ce soir par le tribunal administratif. Les organisateurs vont faire appel devant le Conseil d'État, affirme leur avocat à RTL.
Mais on prend à présent un peu de hauteur puisqu'on aura bientôt peut-être un deuxième visiteur sur la planète Mars.
Alors que se trouve déjà sur place le rover de la NASA, Perseverance, un petit robot chinois doit se poser la nuit prochaine sur la planète rouge. Il a quitté la Terre en juillet dernier. Ce serait une première pour la Chine, Sophie Jousselin. Enfin, encore faut-il réussir à se poser, hein, parce que pour l'instant, seuls les Américains ont réussi.
Oui, absolument. Zhurong, c'est le nom de ce rover, va devoir survivre aux fameuses 7 minutes de terreur. 7 minutes pendant lesquelles il va devoir passer de 28 000 km/h à moins de 5 pour se poser tout en douceur sur la planète rouge. Si tout se passe bien, il sera alors le deuxième rover en activité sur Mars. L'autre, vous l'avez dit, c'est Persévérance, le robot de la NASA. Antoine Meunier est le créateur du site La Chronique Spatiale.
Persévérance, c'est l'équivalent d'une Twingo. Zhurong, lui, il est plus petit, il fait 240 kilos. Si vous observez bien ces panneaux solaires, c'est un peu comme des petites ailes de papillon. Ce rover, il doit étudier la structure géologique de Mars, quel type de rochers, quel type de minéraux sont présents. Il va étudier le climat.
Alors Zhurong doit se poser dans Utopia Planitia, une zone que les Chinois ont minutieusement choisie pour l'atterrissage.
Les Chinois ont pris leur temps pour cartographier la planète Mars afin de déterminer un site d'atterrissage le plus propice possible. C'est un terrain qui est extrêmement plat, proche de l'équateur, pour que ce soit le plus propice notamment pour tout ce qui est télécommunication entre le rover et puis la Terre.
Et si tout se passe bien, Zhurong doit sillonner la planète rouge pendant au moins 3 mois.
On va suivre ça avec vous, Sophie Jousselin, pour RTL. Il doit atterrir à quelle heure cette nuit ?
1h11.
Voilà, c'est précis. Hein. C'est précis. Tout ça, il faut avoir des bons freins pour passer de 28 000 km/h à 5. Merci Sophie. Le foot, Paris Saint-Germain et le nouveau maillot qui fait hurler les supporters.
La fin du championnat approche. Les clubs préparent déjà la saison prochaine. Certains ont dévoilé leur futur maillot. C'est le cas du PSG. Bonsoir Nicolas Jean-Giraud.
Bonsoir.
Visuellement, c'est sûr, il y a du changement, sans non plus être totalement excentrique, mais ça passe mal chez les supporters parisiens.
Oui, une tunique domicile entièrement bleu avec des liserés blancs et rouges discrets sur les manches et sur le col. Les couleurs historiques sont là, mais c'est vrai, le dessin est totalement différent des bandes verticales imaginées par Daniel Echter dans les années 70. Julien, abonné au PSG depuis un quart de siècle, n'en veut pas du tout.
Tout le business qu'il y a autour du foot n'a pas arrêté de tenter de s'attaquer à ses repères. Le maillot, c'est le symbole du club. On reconnaît la Juve au maillot rayé noir et blanc. On reconnaît le maillot de Paris aux bandes verticales. On ne peut pas accepter encore une fois que le business, que le marketing vienne marcher comme ça sur l'histoire et les valeurs du PSG.
L'évolution est normale et logique en revanche pour Samy, jeune supporter du club de la capitale.
Ce maillot respecte nos couleurs. Honnêtement, je pense que pour le club, mettre en place le même maillot domicile chaque saison, avec la même bande, exactement tout pareil, ça perdrait de l'attractivité. Les gens ne voudraient même plus l'acheter, je pense, puisque le PSG est maintenant une marque mondiale et cherche à toucher le maximum de public possible.
Contestation lancée sur les réseaux sociaux, et même plus, selon Julien.
La seule arme des supporters est le boycott des maillots. Le seul moyen de pression qu'on a, c'est celui-là. Donc tous les produits jusqu'à nouvel ordre sont en boycott, au moins provisoire, pour le démarrage de l'année.
Une collection imaginée une nouvelle fois en collaboration avec la marque de basket Jordan. Le partenariat perdure et permet au PSG de vendre quasiment 1 million de maillots par an et donc d'appartenir sur ce point au top 4 mondial.
Nicolas Georgerot pour RTL. RTL Foot ce soir entre 20h et 22h. Exceptionnellement pas de Ligue 1. Tous les matchs de l'avant-dernière journée du championnat vont se jouer dimanche soir en simultané.
Merci Alexandre, on vous retrouve pile à 20h pour l'actualité. À tout à l'heure. Et l'appli RTL est à disposition bien sûr. Le temps demain, Claire Delorme, il fait pas beau.
Pas beau, c'est exactement le mot. Puisqu'on a une perturbation qui va arriver donc dès cette nuit par l'ouest. Et donc en matinée on va la retrouver du sud-ouest vers la région du nord et de l'est, avec en prime donc des pluies qui seront beaucoup plus modérées vers la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, mais aussi en direction des Alpes. Et puis donc dans l'après-midi, cette perturbation va rester essentiellement sur ces régions, alors qu'à l'arrière, on aura un ciel de traîne plutôt actif, de la Bretagne vers le bassin parisien, les Hauts-de-France. Donc quand je dis traîne active, ça veut dire qu'on aura de nombreux passages nuageux, hésitant avec quelques éclaircies, des nuages porteurs d'averses qui pourront même conduire à un coup de tonnerre pour les plus malchanceux, pour ceux qui seront en dessous les éclairs. Et puis donc pour des conditions beaucoup plus calmes, beaucoup plus sèches, faudra vous rendre une fois de plus en Méditerranée, toutefois avec un ciel aux tonalités un petit peu plus laiteuses, avec des températures qui sont encore en dessous des normales de saison dignes d'un mois d'avril. En matinée, il faudra compter généralement entre 7 à 11 degrés, avec 8 degrés à Paris, il fera un petit peu plus doux en Méditerranée et les maximales dans l'après-midi seront de 23 degrés dans le sud-est, de 21 degrés près des Pyrénées et sinon de 13 à 18 degrés partout ailleurs.
Voilà le programme, et c'est pas terrible, et c'est comme ça pour plusieurs jours. Sachez-le, merci Claire.
Avec plaisir.
Dans un instant, on défait le monde, c'est jusqu'à 20h, nous sommes vendredi soir avec Greg Omanet, avec Laurent Tessier, avec Marie Mollet, avec Brice Dugénie, qui va peut-être arriver un jour en studio, peut-être, avec Cyprien Signé qui est déjà là.
Et nous, on va vous amener le soleil, en tout cas.
Ah, ouais.
Claire a dit pas beau, c'est peut-être pour ça qu'il est parti.
Ouais, peut-être. Ou pas. Allez, à tout de suite, tout en direct.
RTL Soir.